Vous écoutez, on lit pour vous.
Immigration francophone, des défis à relever malgré des moyens limités. Un texte de Patrick Butler, paru le 23 octobre 2024 sur Ici, Terre-Neuve et Labrador. Des organismes d'immigration francophone des quatre provinces de l'Atlantique se réunissent à Saint-Jean, à Terre-Neuve et Labrador, pour discuter de ce qu'ils peuvent faire pour mieux accueillir et retenir les nouveaux arrivants, malgré leurs moyens souvent limités. On l'entend dire très, très souvent qu'on a besoin d'immigration pour la survie et la vitalité de nos communautés. Et c'est vrai, affirme Martin Théberge, président de la Société nationale de l'Acadie, qui a organisé la rencontre de deux jours. On a des organismes qui font énormément de travail, mais plus on s'éloigne des grands centres, plus le défi est grand. Plusieurs participants au colloque atlantique sur l'immigration francophone travaillent au sein d'équipes qui ne comptent qu'une poignée de membres, mais dont la liste des responsabilités est très longue. C'est un travail de longue haleine et très, très complexe. On a des familles qui arrivent d'un peu partout. Il faut les écouter. Il faut bien les accueillir, évidemment. Mais il faut aussi porter attention à la communauté qui les accueille, affirme Eugénie Parent, directrice de la coopérative d'intégration francophone de l'Île-du-Prince-Édouard. On offre quand même des services complets. On essaie de faire beaucoup avec très peu d'effectifs. Ce qu'on répète depuis longtemps, c'est que les organismes francophones doivent faire tout dans le cheminement d'un nouvel arrivant, tandis qu'au niveau anglophone, ils ont des partenaires, ils ont plein d'organismes. Renchérit David Lapierre, coordonnateur et seul employé du réseau en immigration francophone de Terre-Neuve et Labrador, qu'il qualifie de « one-man show ». Ça prend plus d'argent pour appuyer les régions. En vertu de la nouvelle politique fédérale en matière d'immigration francophone hors Québec, Ottawa souhaite que 6 % des nouveaux arrivants soient francophones en 2024. L'objectif atteindra 7 % en 2025, puis 8 % en 2026. Selon les dernières données de Statistique Canada, le nombre d'immigrants arrivant dans les provinces de l'Atlantique a augmenté de façon considérable au cours des dernières années. Entre le 1er juillet 2023 et le 1er juillet 2024, la région a accueilli plus de 53 000 nouveaux résidents. Martin Théberge soutient que les immigrants francophones en milieu minoritaire et en région rurale ont besoin de plus de soutien que les organismes en milieu urbain, où il existe une plus grande concentration de services. Il faut plus de soutien. C'est vrai que ça prend plus d'argent pour appuyer les régions rurales, affirme-t-il. 20 nouvelles personnes au centre-ville de Toronto n'auront pas énormément d'impact dans la communauté. 20 nouveaux francophones sur la péninsule de Port-au-Port, ça va avoir un énorme impact. Eugénie Parent souligne que malgré les nombreux défis, les organismes d'aide aux immigrants établissent de plus en plus de partenariats, souvent interprovinciaux, qui rendent leur travail plus efficace. Plus on parle d'immigration francophone et plus on parle de qui sont nos nouveaux arrivants, le plus de partenaires qu'on vient se chercher dans la communauté, non seulement du côté francophone, mais même du côté anglophone, explique-t-elle. Le plus de connexions qu'on fait, le plus d'aide qu'on obtient. C'était « Immigration francophone, des défis à relever malgré des moyens limités ». un texte de Patrick Butler, paru le 23 octobre 2024 sur Ici, Terre-Neuve et Labrador.
Martin Bélanger, Les angoisses passionnelles. Un texte d'Isabelle Beaulieu paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. L'an passé, il avait attiré l'attention avec La fin de nos programmes. Une histoire de radio et d'acouphènes où le personnage était accablé par le deuil et préoccupé par la recherche de sens. Un an plus tard, Martin Bélanger, originaire de Québec, maintenant nouveau résident de Mont-Saint-Hilaire après une escale de 4 ans à Toronto, vient de commettre son 2e roman, souvent déterminant dans la carrière d'un auteur. Avec 180, l'écrivain nous introduit cette fois dans la vie de Thomas Delage, qui, comme le titre nous en informe, aura à vivre d'importants changements, ayant jusqu'à devoir négocier âprement avec son âme et sa conscience. Engagé avec Armel dans une relation amoureuse, Thomas s'apprête à subir une vasovasostomie, une opération visant à renverser une vasectomie et à le rendre de nouveau fertile. Pourtant, d'aussi loin qu'il se souvienne, il n'a jamais voulu devenir père, n'a pas l'appel, s'est même volatilisé subitement. Lorsque jeune adulte, une de ses fréquentations avait vaguement évoqué son souhait d'avoir des enfants. Mais la vie nous sert par instants d'étonnantes volte-face, se jouant de nos assurances premières. Les événements nous conditionnent et nous amènent à nous demander si nous décidons réellement quelque chose, aveuglés par l'illusion que nous tenons les ficelles. Je n'ai plus 20 ans. Et j'ai assez de décennies derrière la cravate pour avoir appris que les convictions parmi les plus fermes que je pouvais entretenir ont parfois été celles qui, plus tard, ont été complètement ébranlées, constate l'auteur. Quoi qu'il en soit, depuis sa rencontre avec Armel, Thomas veut bien tenter le coup et fonder une famille, mais pour l'heure, il doit s'envoler vers la Californie, effectuer pendant 1 mois un contrat de traduction pour la multinationale technologique Pineapple. Préoccupation libidinale. Lors de son premier vol l'amenant vers Toronto, Thomas tombe sur Marianne, une ancienne flamme de ses années d'université. 20 ans plus tard, à sa simple vue, retour en arrière immédiat. Réminiscence des beaux jours d'insouciance. Remémoration du trouble qui le consumait en sa présence. Vague de concupiscence remontant à la surface et s'immisçant malgré lui dans son corps et son esprit. Cette situation, pas si extraordinaire en soi, n'en est pas moins un terreau fertile pour Martin Bélanger, auteur à la plume habile, qui en a profité pour creuser les questions d'infidélité, de désir et du voyage d'affaires. C'est un lieu commun. Des gens qui sont heureux en mariage, absolument amoureux et attachés à leur partenaire, vous les placez dans un séminaire de travail pendant 1 semaine en Floride ou en Espagne, et là, tout d'un coup, il peut se passer bien des affaires. Ensuite, reste à voir si l'on peut vivre avec les conséquences, c'est-à-dire avec le poids moral de ses actes. Le héros expérimentera les affres de l'écartèlement entre ses pulsions et ses principes, soumis à la force des conjectures. Comme Thomas, convoite lubriquement Marianne et aime tout de même Armel. Nous sommes en droit de nous demander si dans notre société, nous ne faisons pas trop souvent grand cas de l'infidélité, alors qu'elle ne signifie pas nécessairement un aveu de désamour envers notre conjoint ou conjointe. J'ai un ami un jour qui m'a dit que l'intimité, ça ne se partage pas. Ça m'a frappé, exprime Martin Bélanger. Il y en a d'autres qui vont prétendre le contraire et très bien vivre avec ça. C'est chacun son truc, mais moi, ça a résonné. Le doute et les remises en question qui assaillent Thomas le poursuivent dans sa résolution même d'avoir un enfant avec Armel. Il ne sait plus où ses convictions logent. D'autant plus que les souvenirs du passé lui rappellent les arguments qu'il tenait à propos de ses raisons de ne pas en vouloir. Encore là, ce que l'on croyait immuable et inflexible tangue à certains moments, nous laissant à la merci des tourments que ces incertitudes engendrent. Bélanger présente un homme en proie à un dilemme cornélien devant faire face à ses contradictions et empoigner sa culpabilité afin de la tordre et garder presque intact son sentiment de loyauté. Finalement, les circonstances détermineront si Thomas et Marianne passeront à l'acte ou pas, comme si le sort avait un dessein tout préparé dans sa manche. La vie a peut-être souvent raison. Elle s'en tient à ce qu'elle veut, de dire l'écrivain. Les chemins se tracent sous nos pas au fur et à mesure de ce qui nous arrive. Se mettre à l'ouvrage. L'œuvre littéraire, pour Bélanger, s'émancipe à partir des balises qu'il s'oblige à respecter, trouvant davantage de liberté à l'intérieur d'un cadre assez précis que dans un infini sans repère. Venant du monde de la publicité et habitué à travailler avec des barèmes, il applique dans l'écriture la même procédure. Je fais partie de ceux-là qui croient que la contrainte est nécessaire à la créativité, explique-t-il. J'ai étudié en musique. C'était la même chose. Je m'impose des amalgames, identifiant quelques éléments de sa vie personnelle. Il les transpose dans ses histoires sans pour autant faire de l'autofiction. Dans le cas de son roman « 180 », il a utilisé son propre choix de non-parentalité afin d'en munir son protagoniste, qui aura aussi à reconsidérer sa décision. Une fois les thèmes sélectionnés, il se laisse mener par le bon vouloir du récit et des protagonistes qui forgent le reste. Plusieurs auteurs et autrices influencent aussi, par leur souffle et leur manière, son écriture. Fabrice Caro, Maria Pourchet, Fanny Britt. 180 n'est d'ailleurs pas sans rappeler le roman Les Maisons. Jean-Paul Dubois, Marie-Renée Lavoie, François Blais, Lionel Shriver alimentent la bougie d'allumage de Martin Bélanger. Ainsi, on entre dans le cerveau de Thomas, qui narre un chapitre sur deux, l'autre moitié relatant les faits et gestes de Marianne étant raconté à la troisième personne du singulier. Je ne me sens pas assez compétent pour entrer dans la tête d'un personnage féminin, avoue l'auteur, surtout que c'est elle qui représente le choix d'avoir des enfants, contraire au mien. Il y avait donc deux obstacles qui m'empêchaient d'avoir confiance que je puisse être authentique. Dans les dialogues, Marianne apparaît pourtant très crédible, reflétant une femme également aux prises avec ses démons. Car dans « 180 », la fourche du diable qui pique les anciens amants n'accorde pas de répit. On le sait, la tentation est grande et la chair est faible. Et les flammes de l'enfer dans lesquelles tout cela peut conduire sont, quant à elles, sans pitié. C'était Martin Bélanger, Les angoisses passionnelles, un texte d'Isabelle Beaulieu paru le 21 octobre 2024 dans Les libraires.
David Moreau marque l'histoire du Festival Western de Saint-Tite. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 29 octobre 2024 dans le magazine Fugue. Fidèle à ses habitudes, le Festival Western de Saint-Tite a attiré des centaines de milliers de personnes en septembre dernier. Il y avait toutefois une différence de taille lors de la 56e édition. Pour la première fois, l'événement avait un président homosexuel, David Moreau. Si vous lisez ce texte en croyant que cette information est inutile, vous n'avez probablement pas compris l'importance de la représentation et des modèles comme lui dans la suite du monde. Pourquoi voulais-tu t'impliquer au festival? Je suis originaire de Saint-Tite. Dès mon jeune âge, chaque année, j'attendais que les chevaux arrivent derrière chez nous avec les campeurs. C'était un moment de fébrilité pour moi, même si je n'étais pas encore dans le milieu des chevaux ni impliqué au festival. Avec les années, je suis devenu fanatique du monde western et j'ai été approché en 2015 pour intégrer le comité organisateur. Peu à peu, j'ai gravi les échelons. J'avais comme objectif de devenir président du festival pour organiser une édition à ma couleur et laisser ma trace dans l'histoire de l'événement. Le festival est infiniment populaire depuis des décennies. Quelle est sa force? L'ambiance. Que tu sois dans un spectacle de musique, dans un chapiteau de danse, dans les bars, au rodéo ou sur la rue, l'ambiance est présente partout. C'est ce qui fait que les gens ont la piqûre et qu'ils reviennent année après année. Nos activités touchent une clientèle assez large en ce qui concerne les âges. C'est rare que les gens ne sont pas heureux au festival. Comment as-tu développé ta passion pour les chevaux? Au secondaire, j'ai commencé à en avoir. Je faisais surtout de la randonnée et j'aimais m'en occuper. C'est vite devenu une grande passion. À mes débuts dans l'organisation du festival, j'ai rencontré mon conjoint, Kevin Rivard, qui était dans le monde de la compétition depuis longtemps. Je faisais de l'élevage de chevaux et je rêvais de voir un cheval que j'ai élevé dans le ring en compétition, alors que Kevin achetait un poulain et l'entraînait pour faire la compétition. On s'est complété. Aujourd'hui, je fais un peu de compétition, mais pas au niveau avancé. Je ne demande pas plus que ça. Je préfère l'élevage. À tort ou à raison, les activités du monde rural sont associées à certaines valeurs plus conservatrices. Comment c'est d'être homosexuel dans ce milieu? J'ai toujours eu la mentalité de rester moi-même. Si tu parlais à mes proches et à ceux de Kevin, ils te diraient qu'on est restés les mêmes avant et après nos coming out. On a été très bien acceptés partout. Je n'ai jamais eu de problème à ce sujet au village, dans mon domaine professionnel ou dans le monde des chevaux. Certaines personnes croient que c'est un milieu typiquement masculin et un peu conservateur, mais loin de là. Dans nos disciplines, il y a plusieurs personnes homosexuelles et ça se passe super bien. Quelles sont les réactions des adeptes du festival à votre couple? On ne met pas nécessairement notre couple de l'avant. Le 5 décembre 2023, quand le festival a annoncé que je devenais président, on n'a pas précisé que j'étais homosexuel. C'est juste normal. En entrevue, je parle de mon conjoint. Pendant la finale du rodéo, devant 7500 personnes, je suis allé faire un discours. J'ai reçu un trophée et un dossard de la 56e édition en souvenir. Tout ça remis par des personnes importantes pour le président. L'annonceur a mentionné au micro que ce serait remis par mon conjoint et ma famille. Il n'y a eu aucune réaction négative dans les estrades. L'annonceur est également homosexuel. Et quand on s'en est reparlé en soirée, il m'a demandé si je réalisais que je venais de passer à l'histoire. Je ne m'en rendais pas compte. Il y a plusieurs compétiteurs homosexuels dans le monde du rodéo, mais ils n'en parlent pas. Pourquoi? Je pense que ces individus agiraient de la même façon dans un autre domaine. Je ne crois pas qu'ils restent discrets à cause du monde des cow-boys, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à en parler. Moi-même, étant policier à la SQ, j'évolue dans un domaine professionnel très masculin qui vient avec son lot de préjugés. J'ai eu des difficultés à m'adapter à mes débuts, mais parce que je passais d'un petit village à une plus grosse ville. La même année, j'ai rencontré mon chum. Quand j'ai fait mon coming out, ça a été la plus belle journée de ma vie. Au poste, tout le monde voyait à quel point j'avais l'air mieux. Dans le monde des chevaux, c'est similaire. Les gens ont besoin de se sentir prêts pour en parler. Ils ne m'en parlent même pas à moi, même si je suis très ouvert sur le sujet. J'ai adoré mon expérience au festival, mais j'ai aussi repensé à l'attaque homophobe qui a eu lieu sur place en 2015. Crois-tu que ça a laissé des traces dans la tête des personnes queer qui voudraient vivre le festival? Je ne pense pas. Les situations comme ça arrivent partout. Depuis 2015, la sécurité s'est immensément améliorée au festival. Notre priorité est que tout le monde se sente en sécurité, même si on a une foule gigantesque. Oui, ce crime a été commis envers une personne de la communauté LGBTQ+. Ça a été très médiatisé. Mais la même année, il y a eu une autre attaque sans lien avec la communauté et s'est passé plus sous silence. Une décennie plus tard, je ne crois pas que ça affecte les gens. Notre organisation a beaucoup évolué. Cela dit, quand j'ai reçu ta demande d'entrevue, j'ai pensé que les gens qui ne font pas partie de notre milieu peuvent imaginer que c'est un monde typiquement masculin et que les personnes LGBTQ+ n'ont pas leur place dans le monde Western Country. Pourtant, quand on fait un tour au Festival Western de Saint-Tite, on réalise qu'il y en a plusieurs. C'était David Moreau marque l'histoire du Festival Western de Saint-Tite. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 29 octobre 2024 dans le magazine Fugue.
Exit le gazon, place au trèfle, un texte de Mégane Foy, paru le 21 octobre 2024 dans la presse. Chez Carl Beauchemin, le gazon est littéralement plus vert que chez le voisin, grâce au trèfle. Lorsqu'il a emménagé dans sa première propriété, le résident de Waterloo en Estrie a décidé de repenser sa cour avant d'une superficie de 6000 pieds carrés et d'y planter du trèfle blanc, une variété qui produit des fleurs blanches en début d'été. On a souvent l'image du gazon parfaitement vert qu'on veut atteindre, mais c'est souvent complètement en non-harmonie avec la nature, souligne l'homme de 35 ans. Le trèfle garde sa couleur verte plus longtemps que le gazon parce qu'il résiste à la sécheresse et nécessite moins d'eau, explique Mathieu Brodeur, paysagiste au groupe Richer. Mais il n'a pas qu'un avantage esthétique. Avec son statut de légumineuse et ses racines profondes, il convertit plus efficacement l'azote dans l'air en nutriments que la pelouse ordinaire. Et l'azote atmosphérique est un élément essentiel à l'enrichissement du sol. Les espaces qui comportent du trèfle blanc, affirme Mathieu Brodeur, contre l'érosion, les îlots de chaleur et améliorent la qualité de l'air grâce à la séquestration de carbone. L'un des plus grands avantages de cette option pour M. Beauchemin, la pollinisation. Le trèfle blanc nécessite aussi beaucoup moins d'entretien. Je n'ai pas besoin de couper ma pelouse parce que le trèfle pousse environ un pied et demi pendant l'été. Tu peux le laisser comme ça tout l'été si tu veux, souligne M. Beauchemin. D'après les données recueillies par une agence gouvernementale californienne en 2021, une tondeuse à usage domestique qui comprend un moteur à deux temps produit la même quantité de gaz à effet de serre en une heure qu'une automobile parcourant 482 km. De plus en plus populaire. Il y a 7 ans, le groupe Richer a créé une nouvelle variété de gazon comprenant du trèfle à même les semences. Entre 2021 et 2023, les ventes du produit ont enregistré une croissance de 250%. Nous avons même constaté que plusieurs municipalités, commissions scolaires et projets commerciaux commençaient à intégrer ces options de rechange, indique Mathieu Brodeur. Commis en magasin à la pépinière Jasmin de Montréal, Louis-André Chénier observe le même engouement, en plus d'y voir des avantages financiers. Pour 750 grammes de semences à gazon, on peut couvrir une surface d'environ 400 pieds carrés, explique le spécialiste. Avec la même quantité de trèfle pur, on peut couvrir le double de superficie. Pour environ 150 $, Carl Beauchemin s'est procuré près de 6 kilos de trèfle blanc pour couvrir 6 000 pieds carrés de terrain. S'il avait acheté un mélange maison de semences à gazon à la pépinière jasmin, par exemple, la somme à débourser aurait été au moins 75 $ plus élevée. Dans le cas de M. Beauchemin, il faut dire que la facture s'est toutefois établie à quelques milliers de dollars, car il a fait affaire avec une entreprise de paysagement pour arracher la pelouse initialement posée sur son terrain. Mais il s'agit d'une opération qu'on peut faire soi-même, souligne-t-il. L'idéal, le mélange. Une bonne idée de poser une monoculture de trèfle? Selon Serge Fortier, consultant en jardinage environnemental et auteur du livre « Alternative écologique à la pelouse », l'option la plus écologique reste d'avoir un mélange de plusieurs types de plantes dans sa pelouse. Il faut que ce soit diversifié, dit-il, parce que les plantes se complètent entre elles. La meilleure chose, c'est d'ensemencer ce qu'on souhaite avoir à travers son terrain. Le sol serait ainsi beaucoup plus en santé. Le paysagiste Mathieu Broder estime toutefois qu'un terrain 100% composé de trèfle pourrait s'avérer une option intéressante pour une portion qu'on n'utilise pas du tout, comme celui de Carl Beauchemin. Puisqu'il a une grande cour arrière avec du gazon, il y a une biodiversité quand même, souligne M. Broder. Un couvre-sol salissant. Seul désavantage du trèfle, il est facile à piétiner et surtout salissant. Quand nos animaux de compagnie ou même nos enfants jouent dans le gazon et qu'ils rentrent à la maison tachés de verre, c'est le trèfle qui fait ça, explique Louis-André Chénier de la pépinière jasmin. Après ce deuxième été de floraison du trèfle blanc dans sa cour avant, Carl Beauchemin est plus que satisfait du geste écolo qu'il a fait. Et pour répondre à tous les résidents du coin qui s'arrêtent pour lui poser la question, non, il n'a pas encore trouvé de trèfle à quatre feuilles. Meilleure chance la prochaine fois. C'était Exit le gazon, place au trèfle, un texte de Mégane Foy, paru le 21 octobre 2024 dans la presse.